The executives assigned to this show decided to test it in Jersey. As a result, they think you mouth breathers are too stupid to understand my masterpiece. So listen up, dum-dums, and let me set the stage.
But the whole reason we're doing this thing is because if the girls reported their assaults, they wouldn't get any justice from Darlington. We beat up a lot of people based on this theory.
I'm sure there's a very funny story behind this. And I don't mean funny like ha-ha-ha funny.
Oui, je sais, vous les avez fait à votre image, vous les aimez bien, tout ça, mais excusez-moi de vous dire qu'ils sont quand même furieusement cons.
Give mommy a little kiss.
Allora.
The problem is not that there is evil in the world, the problem is that there is good. Because otherwise, who would care?
My daughter lives with her mother, no matter if she wants me to pay for every damn thing she can right-click online. When she talks to me at all, she's riding me about white male privilege. The myth of white male privilege.
Oh, man! This was supposed to be my big moment.
Bienvenue à l'écoute de Série Folie. Nouvelle édition, c'est le 28e épisode de la saison 5, déjà, Aurore.
Oui.
Oui. Nous sommes repartis pour vous parler séries télévisées. Et l'habitude veut qu'on revoie avec toi deux séries que tu as pu visionner ici dernièrement et dont tu as un avis à émettre, une nouvelle et une plus ancienne qui est revenue avec une saison X.
C'est exact.
On t'écoute.
Alors, on va commencer par la nouvelle. Il s'agit d'une série NBC qui s'appelle Rise et qui a deux particularités pour commencer un peu... entre guillemets, ou en tout cas deux noms connus en tête d'affiche. Premièrement, son créateur Jason Katim, qui est connu notamment pour avoir créé Friday Night Lights et puis après Parenthood. Et puis l'acteur principal Josh Radnor, qui est connu principalement pour son rôle de Ted dans Oh I Met Your Mother, si tu vois de quoi je veux parler. Voilà, donc il s'agit d'une série qui retourne un petit peu aux sources de Friday Night Lights, vu que ça se passe dans une école avec une bande d'ados, mais par contre ça se passe un peu moins sur le terrain sportif du foot américain et un petit peu plus sur les scènes de théâtre, puisque il va s'agir de la mise en scène de la préparation d'une comédie musicale par la troupe de l'école que va reprendre en main un professeur de français qui s'ennuie un petit peu dans sa vie et dans son métier apparemment, et qui donc va trouver une passion dévorante pour cette activité-là. Donc c'est Josh Radnor qui tient ce rôle-là, le rôle du prof, et il est entouré d'une belle brochette d'adolescents, tous assez talentueux, autant au niveau musical, donc puisqu'ils chantent, qu'au niveau de leur jeu d'acteur. Voilà. Il va... Comme d'habitude, enfin en tout cas, comme dans Friday Night Lights, on se retrouve dans une petite bourgade de l'Amérique relativement profonde, en tout cas relativement conservatrice encore dans sa manière d'envisager la vie quotidienne, et donc ça va être l'occasion pour lui d'aborder tout un tas de sujets qui font aujourd'hui plutôt l'actualité, qui sont souvent mis en avant en justement en essayant de faire bouger un petit peu les barrières à ce niveau-là, autant au niveau de l'acceptation des différentes formes de sexualité, ou en tout cas différentes formes sous lesquelles la sexualité peut s'exprimer, les différences aussi de milieux sociaux, les différences éventuellement de race, etc. Donc le prétexte de départ, c'est une comédie musicale qui s'appelle Spring Awakening. Alors je dois t'avouer que je ne la connais pas du tout, donc je serais incapable de t'en parler, mais toujours est-il que c'est une pièce qui parle de l'Allemagne du 19e siècle, me semble-t-il, si je me souviens bien, et qui aborde de manière relativement frontale la question de l'homosexualité, la question des amours interdits et la question aussi d'une société relativement conservatrice, répressive face à une jeunesse qui aimerait pouvoir un petit peu s'émanciper et prendre sa liberté. Donc voilà, il y a un parallèle qui est fait en permanence entre la fiction qui est en train d'être montée sur scène, et puis la vraie vie des adolescents et la vie du professeur aussi, puisque là aussi finalement ça ressemble très fort à Friday Night Lights. On va avoir quand même la vie du... Alors c'est pas le coach ici, c'est le metteur en scène, donc le professeur de français, pourquoi je dis français d'ailleurs, puisque a priori c'est un professeur d'anglais, on va dire de littérature.
Voilà.
Mais donc le professeur qui va être beaucoup aussi mis en avant, puisque dans sa propre famille tout se passe pas forcément super bien. Il a notamment un fils adolescent qu'il a manifestement assez de mal à gérer lui-même, donc voilà. On va pouvoir suivre les problématiques de tous ces jeunes-là. Et ils ont tous des problématiques relativement différentes. C'est une petite ville en plus, donc il se passe des choses qui peuvent avoir des incidences sur les vies des uns et des autres. Et c'est assez fun à suivre, je dois dire. C'est vrai qu'il y a une partie musicale, mais c'est pas une comédie musicale. Hein. Il y a dans un épisode, il y a peut-être un ou deux morceaux où on les voit en train de répéter une chanson, et donc à ce moment-là, ils chantent. Mais en dehors de ça, on ne les voit pas. On ne les voit pas chanter en permanence, quoi. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé les morceaux musicaux aussi, j'ai beaucoup aimé la manière dont, comme dans Friday Night Lights, on nous dépeint une vie provinciale américaine. Maintenant, comme surtout dans Parenthood, mais aussi, je me souviens, dans Friday Night Lights, c'était un petit peu le reproche principal que je ferais à cette série-là, comme je le faisais aux précédentes, c'est que les relations sont envisagées sur un mode très, je dirais, hystérique. Ça s'engueule beaucoup, ça s'énerve très vite pour pas grand-chose, et quand les choses se règlent, ça ne se règle jamais véritablement, c'est plus des... Enfin, on finit par continuer à vivre plus ou moins, à vivoter plus ou moins les uns à côté des autres, mais rien n'est jamais véritablement réglé. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a énervé dans ces séries-là. Et ici, c'est le cas aussi. Donc, à moins que... t'en es tellement soupé de ce qui se passait dans Parenthood que tu n'en puisses véritablement plus. Je trouve que c'est une série vraiment, vraiment agréable. Maintenant, il faut passer outre ce côté-là un peu hystérique. Il y a notamment toute une trame autour de l'alcoolisme d'un des adolescents qui, à nous, Européens, qui ne vivons pas dans un contexte où l'alcool est interdit avant 21 ans, nous paraît quand même très très exagéré, mais voilà.
Ça reste la réalité.
On
n'est
pas dans
certains.
Le même contexte, très clairement, quoi. Donc voilà. Je continuerai à regarder. Malgré tout, ça reste intéressant, une sorte de Glee, mais plus réaliste, un petit peu plus profond peut-être aussi, avec des acteurs et des personnages qu'on a envie de continuer à suivre. Il y a malgré tout, malgré le côté hystérique dont je parlais, il y a une vraie bienveillance vis-à-vis de l'ensemble des personnages. C'est encore une fois un créateur de série qui, on le sent, aime ses personnages et ne va pas nous présenter des personnages à haïr, quoi, hein. Ils ont tous, malgré tout, des raisons, ils ont tous une manière de fonctionner qui peut nous permettre de s'identifier à chacun, et ça c'est assez plaisant.
Voilà,
ça c'était pour la première série, c'était donc Rise. Et je continue avec la deuxième. Comme tu l'as dit, cette fois-ci ça n'est pas une nouveauté, il s'agit d'une saison 2, et il s'agit de la saison 2 d'Atlanta.
Ah!
La saison 2 d'Atlanta.
Le cas Atlanta, oui.
Qui arrive sur sa fin, même si on n'a pas encore tout vu. Je crois qu'on en a vu 8 épisodes jusqu'à présent. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette saison 2 n'est pas exactement sur la même lignée que la saison 1, même si on y retrouve quand même le ton, hein, la saison 2 ne dénature pas du tout l'univers de la saison 1, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais la saison 1 avait quand même une certaine trame narrative qui nous permettait d'un épisode à l'autre de plus ou moins s'y retrouver, même si c'était sur un mode dramédie, donc on suivait le quotidien d'un personnage en particulier. Ici, c'est beaucoup moins le cas, puisque en tout cas, les 4 au moins derniers épisodes qu'on a eu l'occasion de regarder, c'était à chaque fois plutôt des sortes de bottle épisodes qui nous racontent des choses un peu improbables comme ça, où on suit à chaque fois un personnage différent à qui il arrive un truc totalement bizarre. C'est un épisode, enfin il y a 2 épisodes où on suit Paperboy dans 2 aventures totalement loufoques. Il y en a une autre où on va suivre la petite amie, sauf que c'est pas vraiment la petite amie, enfin la mère en tout cas de l'enfant de Earl, mais ou Earn d'ailleurs, mais je me souviens plus de son nom. Et puis il y a aussi le pote qui traîne toujours avec Paperboy, dont j'ai oublié le nom. Donc ça, c'était les quatre derniers épisodes qu'on a eu l'occasion de voir, c'était ceux-là qui sont assez particuliers, où on se demande un petit peu où il veut en venir, qui malgré tout sont très prenants. Une fois qu'on est dans l'histoire, on est là comme le personnage principal en train de se dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer, ça risque de mal se finir, etc. Mais en même temps, moi j'aime bien quand même trouver le message, quoi. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire, et j'ai l'impression que en sous-texte, alors c'est un point de vue à l'instant présent, en n'ayant pas vu l'ensemble de la saison, et donc c'est une théorie toujours en cours, mais j'ai l'impression qu'on est en train de nous parler de l'impossibilité de vivre dans le même monde, surtout une fois qu'on aborde la célébrité. Assez régulièrement dans ces épisodes-là, on a affaire à un des personnages qui est une célébrité, et cette célébrité fausse totalement le rapport qu'elle peut entretenir avec les autres personnes. Ceci dit, si tu te souviens bien, dans un des épisodes, le premier avec Paperboy, où il est avec son coiffeur. Ben oui, c'est passionnant de suivre un épisode d'un rappeur avec son coiffeur. Mais là, c'est pas forcément la célébrité, puisque c'est l'autre, c'est le coiffeur qui est totalement sur une autre planète pendant tout l'épisode. Donc, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur le fait d'avoir chaque individu est une sorte de planète qui fonctionne toute seule, un peu en boucle, comme ça, un peu de manière solipsiste, sans vraiment réussir à connecter avec le monde extérieur. Et donc chacun tourne sur lui-même en permanence sans réussir à rentrer en contact avec les autres. Et la plupart du temps, c'est en grande partie à cause de la célébrité. Voilà. Moi, c'est ce que j'en ai compris. Okay. Toutes les théories sont les bienvenues, hein, mais je trouve que malgré tout, c'est toujours un challenge d'avoir comme ça des séries qui nous apportent aucune clé et qui nous permettent d'y mettre les interprétations qu'on veut, quoi. Maintenant, c'est vrai que si on prend pas ça sur le mode du challenge, on peut aussi passer totalement à côté et se dire « Oui, bon, d'accord, mais c'est quand qu'il va se passer un truc? C'est quand qu'il va y avoir un lien entre ces différents épisodes et tout et tout, hein ?»
Et puis, c'est un exercice qui a pu être vu dans d'autres séries télévisées, et puis on peut se dire là, bah, on va avoir un épisode comme ça, un peu l'épisode de la mouche dans Breaking Bad, ou ce genre de choses. On peut sortir du cadre et se dire, bon, bah voilà, c'est un moment de pause. Ici, ça fait quand même 4 épisodes, et on se demande quand même où on veut venir, en venir. Hein.
Oui, exactement. C'est vrai qu'on se demande un peu s'il n'a pas décidé de faire presque l'ensemble de la saison sur le mode bottle episode, comme ça. Ce qui est un concept en soi, mais qui se rapproche de plus en plus de l'anthologie, du coup. Hein. Mais pourquoi pas? S'il y a un propos et si on y adhère, il y a moyen. Maintenant, c'est vrai que malgré tout, c'est toujours un peu déstabilisant. Ce sont pas toujours des situations dans lesquelles on se sent bien. Hein. Généralement, les personnages sont un petit peu mis en péril, et donc c'est pas forcément toujours agréable à suivre sur le moment, parce qu'on se sent un petit peu mis en dehors de notre confort habituel, quoi.
Ouais, clairement.
Voilà.
Un peu de mal-être.
Exactement.
Une première pause musicale, si tu le veux bien.
Oui, une première pause musicale. On va s'écouter Lynyrd Skynyrd, figure-toi, avec Gimme Three Steps, entendu dans My Name is Earl.
We'll be right back.
Nous voici de retour pour traiter le sujet du jour avec Aurore. Quel est-il ?
Eh bien, aujourd'hui, on va parler des mondes parallèles et des univers alternatifs.
Dans les séries télévisées, évidemment, pour ceux et celles qui nous rejoindraient.
Ah oui, en effet, c'est un petit peu le principe de l'émission. Et on va commencer par les mondes parallèles, si tu le veux bien.
Moi, je veux bien.
Voilà, en observant que finalement, il y en a pas mal, hein, des séries qui proposent des univers parallèles. Les premiers types d'univers parallèles auxquels on pense... j'imagine le plus spontanément, ce seront les épisodes dans lesquels au sein même de la fiction, on va avoir véritablement un autre univers ouvert quelque part, que ce soit un univers réel ou bien que ce soit un univers qui est en train de se dérouler plus dans la tête d'un personnage pendant qu'il est en train de rêver ou pendant qu'il est dans le coma ou ce genre de choses-là. Donc, premier type d'univers parallèle, mais je dirais que ce sont des univers parallèles où on a véritablement la représentation de deux mondes qui se ressemblent plus ou moins. Normalement, il y a quand même une volonté qui est pas mal de ressemblances, quoi, hein, pour qu'ils soient... parallèle. Les exemples qu'on peut trouver assez spontanément, cette année-ci, on a eu évidemment la série Counterpart qui était vraiment sur ce modèle-là, puisqu'on avait deux mondes, enfin un seul monde qui avait fini par se séparer il y a... c'était quoi, une trentaine d'années, quelque chose comme ça, et qui, à partir de là, avait commencé à dévier de plus en plus, avec des deux côtés les mêmes personnages, mais qui, évidemment, étant donné qu'ils n'avaient pas vécu exactement la même chose, n'étaient plus tout à fait pareils, et plus le temps avançait, et moins ils se ressemblaient. On retrouve aussi ce principe-là dans Fringe,
évidemment,
dont on ne pouvait pas ne pas penser quand on regardait Counterpart. Dans Once Upon a Time, on pourrait aussi se dire qu'il y a l'univers du monde réel et puis il y a l'univers des contes de fées. Et puis au fur et à mesure des saisons, il y a d'autres univers aussi qui vont plus ou moins se superposer comme ça, on ne sait pas trop si ils appartiennent à l'univers des contes de fées aussi, ou bien si c'est encore un autre étage. Par exemple, il y avait l'univers des enfers pendant une demi-saison, il y avait l'univers de Peter Pan aussi, enfin ce genre de choses-là. Dans Dirk Gently, Holistic Detective Agency, dans la saison 2, on avait aussi comme ça un monde parallèle totalement loufoque dans lequel ils étaient convoqués. On finissait par apprendre petit à petit qu'ils se trouvaient dans la tête d'une personne qui était dans le coma, si je me souviens bien. Ce qui nous... ramène à d'autres séries dans lesquelles aussi on a des univers parallèles mais qui sont moins réels, qui sont plus dans la tête des gens, comme par exemple dans My Name is Earl, quand Earl est dans le coma, il vit dans une forme de sitcom, une petite vie parfaite avec une femme, son frère qui vient le visiter dans sa maison de temps en temps, etc. Dans Supernatural, il y a certains épisodes aussi où on voit alors, notamment dans la saison qui est diffusée actuellement, y a un univers parallèle qui est l'univers dans lequel a été envoyée Mary, et dans lequel Ben, ils vont essayer de passer pour pouvoir aller la récupérer, mais du coup, on peut se dire que le monde des anges pourrait être un univers parallèle en lui-même aussi, de même que les enfers. Enfin, il y aurait plusieurs niveaux là aussi qui se superposeraient au fur et à mesure des saisons dans Supernatural. Dans Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., on avait un univers parallèle dont ils n'avaient pas tout à fait conscience au début qu'il ne s'agissait pas de la réalité, vu que en fait c'était un univers qui était totalement induit par le fait qu'ils étaient rattachés à une machine qui leur envoyait des images dans la tête, alors qu'en fait ils étaient prisonniers attachés pendant tout ce temps-là. Donc pourquoi pas, ça pourrait aussi correspondre à cette caractéristique-là. Philip K. Dick, Electric Dreams, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais parlé d'un épisode dans lequel on avait une enquêtrice qui vivait deux vies en parallèle et on ne savait pas trop laquelle était la vraie, laquelle était la fausse, et au final, elle choisissait un petit peu au pif laquelle selon elle était la vraie, simplement parce que l'autre lui semblait trop parfaite, et donc c'est que ça devait être un rêve, quoi. Donc il y avait aussi quelque chose de cet ordre là dans Preacher. Il envoie des gens aux enfers là aussi. Les enfers sont un monde parallèle en soi. Et puis dans The Sopranos aussi, il y a certains moments, certains épisodes qui se passent entièrement dans son rêve et qui pourraient éventuellement correspondre à cette idée de monde parallèle. Mais on le sent bien dans les exemples que j'ai donnés, finalement il y a déjà deux modèles qui sont un peu différents. Il y a un modèle où le monde existe entre guillemets réellement, et puis il y a un monde où un modèle dans lequel le monde se trouve dans la tête plus des gens. Ben on va finalement pouvoir décliner ça de manière encore plus visible dans les exemples que je vais te donner ensuite, puisque d'un côté on va avoir des séries qui ne propose pas vraiment un univers parallèle, mais qui malgré tout va nous proposer des versions parallèles de manière de voir les choses. Je pense évidemment en priorité à The Affair, dans lequel on a deux versions de l'histoire, deux et puis quatre d'ailleurs, qui vont se superposer. Dans Mr. Robot, on va aussi avoir différentes versions de l'histoire. Et puis dans Légion, de manière encore plus cartoonesque cette fois-ci, même dans Scrubs ou dans Ally McBeal, on avait la réalité et puis ce qui se passait dans l'imagination du personnage principal qui à chaque fois venait rajouter une petite couche à la réalité. Donc ça, c'est plus du côté ce qui se passe dans la tête des gens. Et puis du côté plus de la réalité, cette fois-ci, on va avoir certaines séries qui vont à certains moments nous proposer la preuve que au sein même du réel, il semble y avoir une réplication du même modèle que celui qu'on nous présente à la base. Je m'explique par là, en commençant par Seinfeld. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a un épisode dans Seinfeld où ils rencontrent leur double. Hélène, en fait, rencontre un groupe trois hommes comme ça qui fonctionnent exactement, enfin, pas exactement justement sur le même mode que Jerry Seinfeld et ses deux amis, puisque eux sont super gentils, en fait, et donc c'est un petit peu leur double, mais qui sont le contraire au niveau de leur fonctionnement. Ils sont très matures, très serviables, etc. Et donc, il y a comme ça un jeu qui est fait sur un parallèle. Et ben, il y a quelques séries comme ça qui ont joué sur les doubles maléfiques et ce genre de choses-là, notamment Community, auquel on peut penser. Et puis, dans You're the Worst, il y a l'épisode de la saison 1 où ils font leur Sunday Fun Day, ou je ne sais plus exactement comment ils l'appellent, où pendant cette journée qui est censée être uniquement consacrée à la guindaille, finalement, ils rencontrent un autre groupe d'amis qui sont en train de faire exactement la même chose, qui ont donné le même nom à leur journée de guindaille. Et là, tout à coup, ça gâche totalement leur plaisir à eux, parce que ils sont plus du tout spéciaux, quoi. Ils sont plus du tout uniques, et il y a une sorte de prise de conscience comme ça que finalement le monde réel n'est que peuplé de petits groupes qui tous ont l'impression d'être absolument originaux, alors qu'ils font tous à peu près la même chose. Donc c'était assez effrayant. Donc ça, c'était deux manières différentes de présenter des mondes parallèles. Et puis la dernière chose aussi, si on pousse encore le bouchon un petit peu plus loin, ben on pourrait se dire que finalement la fiction en elle-même, en tout cas une bonne partie de la fiction, se présente comme une sorte de reflet de notre monde réel, un reflet plus ou moins modifié, où justement tout le jeu va se trouver sur ces modifications, où on nous présente une forme de métaphore de ce qu'on est en train de vivre dans le réel pour faire ressortir l'un ou l'autre, l'une ou l'autre caractéristique qui nous intéresse. Par exemple, mais j'ai pensé à 3% qui vient de recommencer pour sa saison 2 là, donc c'était l'occasion d'en parler. Mais dans 3%, le fait de nous présenter un monde dans lequel on a 3% de la population qui a accès à une vie de rêve, les richesses, etc., pendant que tous les autres vivent dans la pauvreté, évidemment ça ne peut que nous interpeller sur une forme de métaphore de notre monde actuel. Je pensais aussi à Westworld qui va nous interpeller sur d'autres problématiques, peut-être plus sur l'authenticité de notre monde, sur notre rapport avec la fiction, etc. mais qui va aussi pouvoir se présenter comme une sorte de métaphore de notre expérience à nous, et puis peut-être la métaphore ultime, le reflet ultime de notre monde, en tout cas dans les séries, ben c'est un petit peu les Simpsons qui ont l'air d'exister depuis toujours, qui pourraient exister toujours, qui ont presque tous les mêmes caractéristiques, tous les mêmes attributs que le monde réel, qui ont même des personnages en commun, etc., et qui continuent à fonctionner comme ça en parallèle d'une autre depuis des années et des années. Donc voilà. Tout ça pour dire que ben, finalement, nous présenter des mondes parallèles, ça a l'intérêt principalement de la comparaison. Et la comparaison, ben, ça va permettre à la fois d'insister sur les points communs qu'il peut y avoir entre les deux mondes qu'on essaie de mettre en parallèle. Alors parfois d'un point de vue positif, hein, pour essayer de chercher la vérité qui se trouve derrière tout ça. J'imagine que en nous présentant par exemple Westworld, on essaie de nous interpeller sur une forme d'expérience partagée avec notre propre rapport à la fiction, etc. Mais aussi sur le point plus négatif, c'est-à-dire ben, finalement, comme dans le cas de You're the Worst ou de Seinfeld, ben, il y a une forme de conformisme comme ça dans le monde réel où on est chacun... On se croit unique et en fait on est tous plus ou moins pareils. Ça c'est une manière de voir les choses. L'autre manière de voir les choses, et cette fois-ci je prendrai plutôt le cas de Big Little Lies, où on a l'impression que chacune de ces femmes vivent un petit peu leur vie dans leur coin, un peu de manière aussi centrée sur elles-mêmes, un peu comme dans Atlanta finalement dont je parlais tout à l'heure. Mais dans ce cas-ci, toutes ces vies vont finir par se rencontrer, trouver un lien, participer à un monde commun et se battre contre un seul et même oppresseur, quoi. Et donc, il y a quelque chose là qui va être peut-être plus positif qu'un message de ben, « il n'y a pas moyen de faire lien avec les autres, on vit tous un peu reclus sur nous-mêmes ». Non, dans ce cas-ci, le parallèle finit par accéder à une forme de rencontre malgré tout. Voilà.
Voilà ce qu'il en est pour les mondes parallèles.
On verra après, évidemment, les univers alternatifs, mais en attendant, je te propose d'écouter Mr. Sandman des Cordettes, entendu dans Dirk Gently's Holistic Detective Agency.
On s'écoute ça.
Mr. Sandman, make him the cutest that I've ever seen.
Bum, 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 bum.
Give him two lips like roses and clover.
Bum, 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 bum.
Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone.
Bum, 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 bum.
Don't have nobody to call my own.
Bum, 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 bum.
Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream.
Bum bum bum
bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone.
Bum bum
bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum.
Mr. Sandman,
yes,
bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold,
someone to hold,
would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us. Please, 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 Mr. Sandman, bring us a
dream. Nous sommes de retour après avoir parlé des univers parallèles. On va continuer, Aurore, avec la suite.
On va continuer avec les mondes alternatifs.
Oui, c'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose. Justement, on va essayer de voir c'est quoi où se situe la différence. T'as une petite idée, peut-être ?
Bah, univers parallèle, c'est plus une sorte de miroir. Tronqué, mais voilà, pas tout à fait identique. Et un monde alternatif, univers alternatif, c'est une autre réalité quand même, fortement différente.
Oui, oui, d'accord, ok. Là où je situerais principalement la différence, c'est dans le rapport au temps, en fait, parce que l'univers parallèle, normalement, se déroule exactement au même moment, tu vois, simplement dans un autre espace-temps, entre guillemets, tandis que ben, un univers alternatif, lui, il est pas du tout, il se passe pas du tout au même moment, au contraire, il remplace l'univers dont on parle habituellement, principalement.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut déjà enlever cette notion de miroir. Miroir, pour moi, veut dire qu'il y a cette notion de temps. C'est ce qu'on voit, c'est une sorte de reflet instantané.
Oui, c'est ça.
Voilà, et le monde alternatif, ça peut être dans le futur. C'est ce qu'on nous propose comme comme proposition de ce qui sera peut-être le monde qu'on a connu, mais modifié fortement souvent.
Oui, alors sachant que bah, finalement le modèle le plus classique auquel on pourrait penser en parlant d'univers alternatif, ce sont simplement les récits de voyage dans le temps, où bien souvent, bah, parce qu'on a changé un petit truc dans le passé, bah, l'ensemble du présent va s'en retrouver modifié. Et donc là, on a un univers alternatif. Je ne sais pas si tu te souviens de la fameuse timeline que dresse le Doc dans Retour vers le futur, où il explique bien que la ligne du temps a été cassée à un moment et c'est une autre ligne du temps qui est apparue. C'est un petit peu ce principe-là, même si il n'y a pas toujours exactement des voyages dans le temps, mais malgré tout, il y a quand même une manière de jouer sur les événements pour que les choses soient différentes, quoi. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler. Et il y a trois séries où je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à savoir exactement où les placer. Les deux premières, les deux premières, j'ai plus ou moins réussi à élucider le problème. La troisième, beaucoup moins. Je commence par la première. La première, c'est Awake. Je sais pas si tu te souviens, parce que ça a été une série qui n'a eu qu'une seule saison, mais qui était quand même assez marquante, dans laquelle nous avions un personnage qui, chaque fois qu'il allait dormir, se réveillait dans une réalité différente. Dans un des mondes, c'était sa femme qui vivait tandis que son fils était mort. Il avait eu un accident de voiture. Tandis que dans l'autre univers, c'était son fils qui vivait et sa femme qui était morte. Si je me souviens plus de ce que j'ai dit au début, mais bon, tu vois, c'était l'inverse.
Oui, c'était l'inverse.
Donc voilà. La seule chose, c'est que il était en train de résoudre plus ou moins une enquête, hein, au fur et à mesure des épisodes, où il passait comme ça d'une version à l'autre. Et donc au final, même si c'était plus ou moins des versions alternatives, en même temps il y avait une sorte de continuité dans le temps qui faisait que il était assez difficile de savoir si on avait affaire à des univers parallèles ou des univers alternatifs, ou au contraire une forme totalement différente d'ailleurs, dans lequel la temporalité continue, mais à travers comme ça des versions différentes. Je sais pas si t'as un avis, tu te souviens de cette série là ou pas?
Pas spécifiquement, comme tu me l'expliques, oui, ça me rappelle bien quelque chose, mais je n'y colle pas une image là tout de suite.
D'accord. En tout cas, s'il y en a qui ont des idées ou qui ont trouvé la solution,
c'était la série où ils se parlaient via une sorte de CB, non?
Non, 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 ça c'était une série de l'année passée.
Ça pourrait rentrer aussi en compte.
Qui joue vraiment sur les univers alternatifs, vu que de fait le but c'est quand même de jouer sur le passé pour changer le présent. Donc à la fois c'est vrai, c'est deux temporalités qui sont mises en parallèle, mais en même temps il y a la volonté à travers une temporalité de jouer sur celle qui la suit. Donc c'est vrai que elle est pas forcément évidente à
elle
classer.
S'appelait comment,
non plus,
cette série?
Je t'avouerai que j'ai oublié.
Ben voilà, ben moi aussi.
Elle m'a pas marqué plus que ça. Alors la deuxième série qui est un peu difficile à classer aussi, c'est The Leftovers. Alors là, malgré tout, j'ai l'impression d'avoir plus ou moins fait mon opinion sur le sujet. C'est-à-dire que dans The Leftovers, à la fois, il y a un monde parallèle véritablement où il se prend, le personnage principal se prend pour une sorte d'agent secret qui a une mission à accomplir, et donc là clairement ça semble être un monde parallèle qui se passe dans sa tête, hein, vu qu'il est plus ou moins mort pendant ces moments-là. Mais à la fin par contre, là on va avoir un monde alternatif ou je ne sais pas. En tout cas, ils se retrouvent, les deux personnages principaux finissent par se retrouver dans un autre monde, mais c'est difficile de savoir exactement ce qu'il en est. Donc je ne sais pas si c'est un monde parallèle, un monde alternatif ou bien encore une fois autre chose, quelque chose de totalement différent. Et on en arrive à mon problème le plus insondable, c'est Lost.
Oui.
Alors là, je dois t'avouer que, à la fois, d'accord, on a simplement des flashbacks, là on est d'accord que ça n'est ni univers parallèle, ni univers alternatif, mais à la limite, on a des flash-forward aussi, jusque-là, pas de problème, mais au bout d'un moment, on a aussi d'autres versions qui ne correspondent ni à l'un ni à l'autre, et là, ben, je rame, je suis perdue.
Mais on est dans le grand n'importe quoi, tu l'as bien identifié.
Je sais pas, non, il y a peut-être quelque chose de très précis, mais j'arrive pas à déterminer, justement parce qu'au niveau de la temporalité, ça me paraît pas très clair. Est-ce qu'on est en même temps? Est-ce qu'on est plus tard? Est-ce qu'on est avant? Est-ce qu'on est sur un autre espace-temps? J'en sais rien. Donc c'est un petit peu difficile à classer. Bon, toujours est-il que donc, quand on a affaire à des univers alternatifs, eh bien, généralement, on va jouer un petit peu avec le temps, comme je l'ai dit, avec un petit peu ce principe ludique qui est celui du « what if hein, », que se passerait-il si ? Et alors, on va changer soit une petite chose, soit une grande chose, et puis on va regarder ce que ça donne. Finalement, c'est un principe presque universel de la fiction. Une des caractéristiques qui nous l'a fait apprécier autant, c'est le fait que on va pouvoir comme ça se projeter dans plein de scénarios différents grâce à ce principe ludique du what if. Alors ça peut être un what if interne à la série en elle-même, et il y a pas mal de séries qui ont joué à ça. On peut penser par exemple à plusieurs, une bonne série d'épisodes de Buffy contre les vampires dans lesquels on va avoir comme ça des versions un petit peu différentes de l'histoire. Si par exemple, si Buffy n'avait pas été là, ou bien si Jonathan était le maître du monde, ou bien si Buffy en fait était dans un asile psychiatrique. Enfin, on a comme ça plusieurs épisodes qui sont sur ce mode-là. Ceux qui connaissent Buffy sauront de quoi je suis en train de parler. On a la même chose aussi dans plusieurs épisodes de Supernatural, où on essaie de voir que se passerait-il, que se serait-il passé si, par exemple, si Marie, la mère des deux frères, n'était pas morte, que se serait-il passé si Sam et Dean étaient simplement travaillaient dans un... Oui, étaient des sortes de travailleurs de bureau. Enfin, il y a un épisode comme ça où je crois qu'ils sont envoûtés par un djinn et du coup ils n'ont plus du tout conscience de qui ils sont, et ils sont simplement en train de bosser dans un bureau et à manger de la salade. C'est assez marrant, mais à chaque fois c'est donc ce principe-là. On regarde les personnages qu'on connaît, et puis on change un petit peu leur vie habituelle. Souviens-toi aussi des épisodes de Friends dans lesquels on imagine ce qu'il se serait passé si, et par exemple si Monica était restée grosse, si Ross était toujours marié avec Carol, ou ce genre de choses-là. Dans Felicity aussi, il y a toute toute la dernière saison, qui en fait est une sorte d'univers alternatif, puisque c'est un reboot de ce qui s'est passé la saison précédente. Et puis, enfin, c'est pas exactement un reboot, vu que malgré tout, elle s'en souvient, mais en tout cas, on explore un petit peu autre chose. Pour voir finalement les choix qui se proposent à nous quoi hein. Dans Community aussi il y a certains épisodes où on va jouer là-dessus, notamment je me souviens autour d'un plateau de jeux de rôle où il lance un dé et à chaque fois que le dé tombe eh bien il y a une version alternative du monde qui se met en place. Donc voilà, ça sont les différentes versions alternatives qu'on peut trouver. Évidemment, il peut y en avoir beaucoup d'autres. Il y a aussi les moments où le monde alternatif, c'est pas tellement un monde alternatif par rapport à ce qui se passe dans la fiction, mais c'est un monde alternatif simplement par rapport à ce qui se passe dans la réalité, dans notre monde à nous. Et finalement, toute fiction se présente un petit peu comme un monde alternatif aussi. Hein. Il se présente comme un reflet, mais il se présente aussi comme un monde alternatif et parfois comme un monde alternatif où on va imaginer qu'un événement historique ne s'est pas passé et puis on voit ce qui va se dérouler par la suite, comme dans The Man in the High Castle, où on imagine que ce sont les nazis d'un côté et les japonais de l'autre qui contrôlent les États-Unis. On pourrait se dire que les séries un petit peu dystopiques du genre The Handmaid's Tale ou The Walking Dead pourraient aussi se présenter un peu comme des mondes alternatifs où on imagine le monde, pour une raison ou une autre, a totalement dévié. Et qu'est-ce qui se passerait quoi ? Et donc, finalement, ça pourrait aussi être le cas de toutes les séries qui se passent dans l'espace aussi, et ce genre de choses. Même Game of Thrones peut se présenter comme un monde alternatif par rapport à notre monde à nous, toute la science-fiction, etc. Quel est l'intérêt de jouer sur les mondes alternatifs ? Eh bien, évidemment, ça va être un jeu, on va se projeter, ça va être l'occasion d'explorer nos valeurs, d'explorer peut-être ce qu'on pense de comment l'humanité réagirait face à telle ou telle situation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça met l'accent sur l'importance des choix que l'on pose, puisque si on change une petite chose dans le passé, ça peut peut-être tout faire évoluer dans le futur. Donc ça montre vraiment l'importance des choix, mais en même temps, ça en montre aussi la contingence, la fragilité, puisque c'est un petit peu ridicule que parce qu'un petit truc a changé, il y a tout notre destin qui disparaît. Donc c'est un vrai discours aussi sur ce qu'on pense être le destin pour un être humain qui est fait à la fois de maîtrise plus ou moins de son parcours, et puis en même temps parfois de petits accidents qui peuvent absolument tout changer. Donc ça c'est une chose, et puis au-delà de tout ça, au-delà de tous ces changements, c'est peut-être aussi une manière de s'interroger sur est-ce qu'il existe des invariables qu'on va retrouver quoi qu'il arrive, quelles que soient les versions, et qui toucheraient davantage peut-être à la nature humaine. Voilà
donc, questionnement, réflexion par rapport à ces deux beaux sujets du jour, qui traitaient de la même chose, hein, mais qui ont été catégorisés en mondes parallèles d'ailleurs.
Oui, si tu veux. On aurait pu aussi mettre les ontologies hein, dans tout ça, en se demandant finalement les ontologies, est-ce que ce ne sont pas à chaque fois aussi des petits mondes parallèles qu'on va placer comme ça pour traiter à chaque fois d'un même sujet ?
Merci pour ça. Dernière petite précision faite par Aurore. On va clôturer ici, si tu le veux bien, avec ce petit rappel, notamment par rapport au podcast de cette émission qui sera disponible dans les prochains jours sur les réseaux sociaux et via le site internet www.seriefolie.be. Et puis, pour le reste, une petite dernière chanson pour se quitter.
Je veux bien, on va s'écouter Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, entendu dans Cold Case.
Merci Aurore et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your
Turn
eyes.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
Turn around.
Every now and then dream of something wild.
Turn around.
Every now and then I get a little bit helpless, and I'm lying like a child in your arms.
Turn around.
Every now and then I get a little bit angry, and I know I've got to get out and cry.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes.
Eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
Now and then.